Le journal Adèle Chipou. Secteur public, l'impasse persiste entre le gouvernement et les syndicats publics. Les négociations entamées il y a quelques jours à Kissantou ont été interrompues ce week-end. Dans ce journal, le point de vue de Jean-Kim Bouya, secrétaire général du syndicat des enseignants du Congo. Échange des tirs hier matin au Palais des Marbres à Kinshasa. Il s'agirait d'un affrontement entre les gardes du président de l'Assemblée nationale et ceux de la garde présidentielle GSSP. Bilan, un blessé dans chaque camp. Le gouvernement congolais appelé à contrôler rigoureusement ses recettes et à limiter ses exonérations. L'appel est du Fonds monétaire international à l'issue d'une série de séances de travail conjointes. Voilà tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous joindre. L'impasse persiste entre les syndicats du secteur public et le gouvernement. Les deux parties n'ont toujours pas trouvé de compromis alors que les négociations entamées il y a quelques jours à Kissantou ont pris fin ce week-end. Pour l'instant, les syndicats de la fonction publique se réservent de toute déclaration. Le secrétaire général du syndicat des écoles du Congo, SIECO Jean-Pierre Kimbouya, affirme néanmoins que les portes restent ouvertes tant du côté des plateformes syndicales que du côté du gouvernement.
Les portes sont largement ouvertes du côté du gouvernement et du côté des plateformes syndicales, parce que vous savez que la question cruciale, c'était de toute manière la mise en œuvre de l'accord de Modi, et le gouvernement, de toute manière, c'est sans disposer à pouvoir échanger avec les syndicats du secteur public par rapport à cette question. Surtout que le Parlement siège présentement en session budgétaire et étant donné que cette question devait être inscrite à l'ordre du jour et surtout que les syndicats de la fonction publique devaient être impliqués, n'est-ce pas, à un certain niveau dans le budget de rémunération, il nous est prématuré de pouvoir faire écho de ces entretiens par voie de presse pour l'instant. Mais des négociations ont été entendues et une compréhension éventuelle serait possible au cours de la semaine par la partie gouvernementale.
Jean-Pierre Kimbouya, secrétaire général du SIECO, était joint par René Capita. Enseignement primaire et secondaire, l'appel de l'épiscopat catholique à supprimer la prise en charge des enseignants par les parents semble tomber dans les oreilles des sourds. Certaines écoles catholiques de Kinshasa reviennent à ce système, mais sous différentes dénominations. Ces écoles font payer aux parents d'autres frais en plus du Minerval. René Capita a circulé dans ces écoles et nous en fait le point.
École conventionnée catholique avant l'interdiction de la prise en charge égale après l'interdiction. Selon les parents, au collège Boboto, il faut verser 40 euros pour la réhabilitation des bâtiments et l'achat du matériel informatique. Le lycée Boussangani, quant à lui, exige 55$ d'assistance des parents au fonctionnement de l'école. Le lycée Kabambare demande 70$ américains pour l'entretien du matériel informatique et la location des livres. Ce n'est pas tout. Au collège Notre-Dame, les parents doivent payer 200$ américains des frais scolaires en raison des 100$ américains pour la première tranche. Les deux autres tranches étant des 50$ chacune. Le collège Saint-Joseph, quant à lui, demande aux parents d'avancer 80$ des frais de fonctionnement. Pour cette dernière, les parents ignorent à combien sera fixé le total des frais à payer. À combien se fixe le prix des frais scolaires pour les écoles catholiques? Personne ne le sait. Perception des frais interdits par l'Église, disparité de ces frais d'une école à une autre. Ceci caractérise aujourd'hui les écoles du réseau catholique d'enseignement.
Face à cette situation, la Coordination nationale des écoles catholiques tape du poing sur la table. Il n'est pas question de revenir sur ce système sous d'autres formes que ce soit. La Coordination des écoles catholiques appelle les responsables des écoles de sa juridiction à respecter les directives de l'épiscopat national. Écoutons à ce sujet l'abbé Moutipaï, coordinateur national des écoles conventionnées catholiques. Il est au micro de René Capita.
À ces écoles, comme je l'ai toujours dit, je crois qu'il y a un temps pour tout. On se contente aujourd'hui de marcher sur la tête des pauvres, et ces pauvres, le moment venu, ils seront à bout de leur patience. Et je n'aimerais pas qu'on assiste aux scènes auxquelles nous avons assisté pendant la conférence nationale souveraine. Ces gens-là doivent comprendre que le peuple en a marre d'un système pervers, et que l'enseignement catholique qui est confié à ces gens-là, comme responsable dans les écoles, ne doit quand même pas souffrir de leur cupidité. Je leur adresse un appel pressant à respecter le mode de l'épiscopat et je les rappelle encore à la vertu d'obéissance.
Kinshasa de nouveau, échange des tirs hier matin aux environs du Palais de Marbre dans la commune de Ngaliema. Il s'agirait d'un affrontement entre des militaires commis à la garde de Olivier Kamitatou, président de l'Assemblée nationale, et des militaires du groupe spécial de sécurité présidentielle GSSP. À la base, une incompréhension entre les deux groupes. Ces affrontements auraient fait un blessé dans chaque camp. Suivez plutôt le récit d'un témoin qui a requis l'anonymat.
Il y a eu les gardes de Kamitatou, se sont aperçus que non, voilà, il y avait le beau-frère de leur patron qui a été tamponné. Alors ils sont venus rapidement pour essayer de le secourir. Puis ils ont pris la clé de contact du chauffeur de taxi et il y a eu des militaires qui ont quitté le poste à l'entrée du palais de mort, sont venus pour essayer de menacer un peu et tout. Mais c'est par après que quand le militaire à Kamitatou leur a dit mais non, mais vous me dérangez, mais moi si je suis un militaire comme vous, il a montré son badge et il leur a même montré son arme qu'il avait, un GP. Alors ils sont sautés sur lui directement, ils ont commencé à le tabasser et puis il s'est débattu. Alors, pendant qu'il se débattait, il a coincé un qui avait déjà... pendant qu'ils se débattaient, il y a eu un coup de feu qui est parti. Ceux de la GSSP, pendant qu'ils ont ouvert le feu, pensant que voilà, ça allait les frayer et puis qu'il allait laisser tomber et tout. Mais il n'a pas laissé tomber, il s'est débattu jusqu'à arracher l'arme entre les mains des gardes de la présidence. Alors pendant qu'il leur a arraché l'arme, ça a dégénéré. Donc il s'est retourné, il a commencé à fuir, on a commencé à lui tirer dessus. Reparti rapidement à la résidence où lui fait la garde, chez le président du Parlement. Et c'est seulement qu'après, quand ceux de la GSSP ont remarqué que c'était des militaires et d'autres sont sortis avec des armes, ceux de la présidence ont commencé à tirer sur eux.
Propos recueillis par Nicole Koudiangila. Pendant ce temps, en Ituri, les FRDC poursuivent la série d'offensives qu'ils ont débutées depuis une semaine. Aux dernières nouvelles, les soldats de l'armée régulière sont en train de consolider leurs positions dans les territoires de Djougou, Mongwalou, Boga et Irumu, des localités souvent en proie à des combats sanglants faisant de nombreuses victimes du côté des miliciens. Les forces armées congolaises ont saisi des fusils et des munitions. Le point avec François-Xavier Mibé.
Devant un ultimatum de 48 heures lancé par les FRDC d'une offensive ou d'un désarmement forcé, plusieurs miliciens ont demandé à rendre les armes. Une centaine de miliciens, dont deux chefs de groupe de l'ex-UPC Thomas Lubanga, ont ainsi rendu leurs armes auprès des FRDC près de Djina, annoncé en début de semaine dernière le porte-parole des FRDC en Ituri. La chute de Mongwalou a ouvert la voie de la victoire des FRDC sur les miliciens. Depuis, les localités ont commencé à tomber les unes après les autres, Mabanga, Dala, Dego, Mbidjo, Akwe et Yeti. La reddition des chefs des miliciens s'est également accélérée au même rythme. Des chefs tels que le général Mateso Ninga alias Kung Fu et le colonel Massasi alias Dragon du FNI ont appelé leurs confrères à rendre les armes. D'ailleurs, les porte-parole des FRDC affirment qu'il n'est pas trop tard pour les miliciens qui veulent joindre les FRDC ou retourner à la vie civile. À l'heure actuelle, il ne resterait dans le territoire de Djougou que quelques miliciens UPCL qui prennent la fuite en direction de leur village natal de Djamasiga en territoire d'Aru. François-Xavier Mibé, Radio Kapi, Bounia.
Restons dans le volet militaire avec le début ce lundi à Kalemi de l'opération de destruction d'engins non explosés. Cette opération se déroulera progressivement. La première phase sera marquée par la destruction de près de 100 kilos d'engins non explosés. Cette opération sera exécutée par le détachement belge arrivé à Kalemi depuis 10 jours. Plus d'explications sur cette première journée avec le commandant Servatius, coordonnateur de la dite mission. Il s'exprime au micro de Expedit Mwamba Mubi.
L'état-major général de Kinshasa nous a demandé de détruire tous les engins non explosés qui se trouvent dans le camp marin. Nous en avons recensé un certain nombre et c'est que nous allons commencer les destructions de ces engins non explosés du lundi au jeudi. Il y aura le matin 3 explosions. Ça se passera de 11h, entre 11h et 12h au matin. Et l'après-midi, à nouveau 3 explosions et ça se passera entre 2h et 3h. Le vendredi, même chose. Mais à la place de 3 explosions, ce seront 6 explosions le matin et 6 explosions l'après-midi.
Et puis un mot en bref sur le processus électoral en cours. Les opérations d'inscription au rôle électoral dans le Bandundu et l'Équateur ont été prolongées. Annonce faite par la Commission électorale indépendante dans un communiqué publié hier dimanche à Kinshasa. La CEI confirme en ce qui concerne ces deux provinces le déploiement de tout le matériel nécessaire jusqu'au niveau des bureaux relais. Par ailleurs, dans le cadre de la vulgarisation du projet de constitution, la CEI annonce avoir remis le matériel de sensibilisation aux partis politiques ainsi qu'aux acteurs non étatique. Enfin, cette institution d'appui à la démocratie annonce en ce qui concerne les préparatifs du référendum constitutionnel qu'elle a procédé au recrutement de 90 formateurs électoraux et au repérage des sites devant abriter les bureaux de vote. Le gouvernement congolais doit contrôler rigoureusement ses ressources financières et limiter ses exonérations. Proposition du Fonds monétaire international à l'issue des séances conjointes de travail avec le gouvernement congolais. Seront Cyril Bezanson, chef de la délégation du Fonds monétaire international. La RDC doit améliorer ses recettes pour contribuer de manière satisfaisante à son propre budget. On l'écoute au micro de Dona Madimba.
Ce qu'il faut, c'est surtout, c'est renforcer les régies financières, de s'assurer qu'elles aient les moyens pour effectuer leur travail. Il faut mieux contrôler au niveau des frontières, que ce soit sur toutes les frontières, à l'est, au sud, et bien sûr à l'ouest. et pour que les recettes au niveau des douanes puissent s'améliorer. Et un effort particulier doit faire pour limiter les exonérations qui grèvent en fait le budget de l'État. Et bien sûr, comme vous savez, il y a besoin de continuer la lutte contre la corruption.
Est-ce que vous êtes satisfait? La collaboration a été celle que vous attendiez?
Nous avons de très bonnes relations au niveau des services et au niveau du gouvernement, et nous avons un dialogue, qui est très ouvert et très franc. Donc nous sommes de ce point de vue-là très satisfaits.
Dans le volet économique, le marché du diamant congolais est en crise. Les exportations ne cessent de baisser ces derniers temps. Affirmation de l'administrateur délégué général du Centre national d'expertise des matières précieuses. À la base de cette situation, explique-t-il, le retrait de fonds sur le marché mondial du diamant par certaines banques. Retrait qui a causé la rareté des devises sur le marché. Monsieur Jean-Pierre Chimanga-Bouana au micro de Nicole Koudiangila.
Il y a beaucoup de diamants sur le marché, mais on ne sait pas acheter ça. À notre niveau, nous ressentons cela. Comme vous le savez, le mois passé, nous avions fait ou réalisé plus de 100 millions de dollars d'exportation. Mais là, nous sommes pratiquement vers la fin du mois, mais on n'est que, on n'avait pas encore atteint 40 millions. Donc c'est une situation que nous, on ne maîtrise pas. C'est une situation internationale, créée, comme je vous dis, par l'absence de liquidité due au retrait de l'argent par le grand banquier, et l'orientation de cet argent dans d'autres domaines, notamment pétrole et la bourse. Et à la fin de ce mois, une grande conférence à Accra, où il y aura tous les grands producteurs du diamant lyonnais, et les industriels, et même les banquiers seront là. On va faire passer les messages pour les sensibiliser à revenir.
7h12 dans les studios de Radio Okapi, une heure de plus à Kisangani, la suite du journal avec vous à Gachup. Direction province orientale, précisément à Kisangani, sixième jour ce lundi de la séquestration du chef de chantier de l'école d'excellence. Ce dernier a été enfermé dans une case par les ouvriers de l'entreprise Belle Case Afrique. Ceux-ci réclament un mois et demi de salaire non encore payé par cette entreprise. Pourtant, le Fonds social de la République, maître d'ouvrage, a résilié le contrat qui le liait à la société Belle Case Afrique. Entre-temps, les travaux ont été interrompus. André Kitenge.
Le chef de chantier de la BCA n'est pas le seul à être privé de liberté. Quatre autres employés de cette entreprise sont également retenus contre leur gré au chantier de l'école d'excellence, situé au point kilométrique 9 de la ville sur la route de l'aéroport international de Bangoka. Dans la pièce où il est gardé, Léonard Mbia et ses quatre compagnons d'infortune est déchaussé par ses ouvriers, assis à même le sol et mange à peine à la volonté de ses maîtres du moment. Pas même de contact avec l'extérieur. Ces ouvriers, environ 60 personnes, ont déclaré à Radio Okapi qu'ils ne le lâcheront pas tant qu'ils n'auront pas perçu leur salaire. Hypothèse difficile à être réalisée pour le moment, puisque selon le conducteur des travaux, le Fonds social de la République n'a pas encore versé un seul sou à la BCA depuis le mois du mai dernier. Du côté du Fonds social de la République, le contrat est déjà résilié à la date du 12 octobre dernier, car, estime-t-il, l'exécution des travaux n'est pas conforme au montant déjà versé à la BCA. De Kisangani, André Kitenge, Radio Okapi.
Retour à Kinshasa, les organisations des jeunes des pays francophones doivent tenir aujourd'hui à Paris une assemblée générale. 53 États et gouvernements membres sont attendus dans la capitale française. La RDC sera également de la partie. Elle tient à demander à cette assemblée de voter pour une plus grande implication des jeunes dans la gestion de l'État. Victor Babilois, conseiller national à la jeunesse, au micro de Donna Madimba.
Nous voulons impliquer les jeunes pour qu'on puisse préparer la relève. Parce que vous savez, en impliquant la jeunesse dans cette manière-là, si nous arrivons à 35% de participation de la jeunesse, nous allons éviter ce qu'on nous fait toujours d'amateurisme politique. Pourquoi cette expression amateurisme? Parce qu'en fait, à un certain moment, on laisse tomber les jeunes dans l'affaire un peu d'une manière parachutée. Après un temps d'exclusion, on vous met tout d'un coup aux affaires, vous ne savez pas vous débrouiller. Mais si, déjà au départ, on commence à associer les jeunes à un certain pourcentage, ils travaillent avec les aînés, avec les vieux qui les préparent, et ça fait qu'au fil des temps, il n'y aura pas cette question d'amateurisme.
C'est la fin de ce journal, merci d'avoir été des nôtres. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur Radio Okapi, c'est à 8h, heure de Kinshasa.